Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir. On a eu envie de mettre à l'honneur toutes les personnes qui ont œuvré pour le documentaire à la BPI. Le documentaire est un des fleurons de la BPI, on le sait. Et donc, une fois par mois, on invite un ancien de nos collaborateurs à présenter le film qui a un peu marqué leur carrière. Donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir donc Catherine Blangonnet. Catherine est arrivée à la BPI bien avant que même le centre n'ouvre, en 1976. Elle a travaillé très vite au service audiovisuel jusqu'en 1987. Puis ensuite, elle s'est occupée du catalogue national, ce fameux catalogue national qui distribue des films dans toutes les bibliothèques de France. Et puis, elle est revenue à la BPI en 2005 jusqu'en 2010 pour être de nouveau responsable du service audiovisuel. Voilà. Et donc, ce soir, elle a choisi pour nous le film de Johan van der Keuken, Face Value. Et donc, elle va vous dire pourquoi elle a fait ce choix. Et puis ensuite, je passerai la parole à Alain Bergala, que je remercie d'être là également avec nous ce soir, qui a très bien connu Johan van der Keuken et qui a beaucoup écrit sur lui et sur son œuvre, et qui vous présentera donc ce film, qui sera là aussi, si on veut, à la fin du film, enfin après le film, si vous avez des questions et pour approfondir un peu. Voilà, alors je voulais juste vous signaler que la copie est une copie 16, donc c'est dans son jus, donc je vous laisse apprécier cette qualité de copie. Et je voulais vous informer de la prochaine date, qui sera le 9 mars. Et là, c'est donc Suzette Glanadel qui nous présentera deux films, Close Up d'Abbas Kiarostami et Paradis de Sergei Dvortsevoy. Voilà, mais donc tout de suite, Catherine, je te laisse la parole.
Merci Florence, merci. Merci pour cette invitation qui était un peu intimidante, je dois reconnaître. Tu m'entends ?
Oui, je suis dans la lumière.
Ah non, j'ai pas besoin d'être dans la lumière, si pour lire mon papier. Déjà, la consigne n'était pas très facile parce que programmer une séance avec un film inoubliable. Je pense que je me suis plutôt fiée à mon souvenir au souvenir du sentiment que j'avais ressenti en sortant du film qu'au film lui-même, que je dois vous avouer, je n'ai pas revu depuis 1990, c'est-à-dire sa sortie. Ça fait un certain temps. Donc j'ai des excuses d'avoir un peu oublié le contenu du film. Et je me suis fiée à mon sentiment, qui était une grande émotion, et je crois que c'est mon film préféré de Johan van der Keuken. Mais d'abord, pourquoi van der Keuken ? Je crois qu'il nous a accompagnés dans les bibliothèques, son œuvre nous a accompagnés comme celle de Wiseman ou celle de Chris Marker, mais quand Florence m'a parlé de cette proposition, j'ai assez vite choisi de faire cet hommage à Johan, parce que je crois que j'avais une dette envers lui. Quand j'arrivais de nouveau en 2005 à la BPI, j'ai réussi à faire une rétrospective consacrée à Wiseman, mais je n'ai pas eu l'occasion de faire une rétrospective complète des films de van der Keuken, ce que je regrette probablement. Donc voilà, ce choix, c'est ça. Donc, en fait, l'œuvre de van der Keuken a accompagné le centre, puisque je crois, enfin, je ne m'en rappelle pas, mais Suzette Denatel m'a rappelé qu'en octobre 1978, la première programmation de films de van der Keuken a eu lieu au centre, c'est-à-dire dans la petite salle du centre. C'était quatre séances de courts-métrages, à l'initiative des Cahiers du cinéma, je pense, parce qu'à l'époque, les Cahiers avaient écrit un certain nombre d'articles sur Johan, enfin commencé à le découvrir réellement. Il n'avait jamais été montré en France, mais il était assez connu aux Pays-Bas, parce que ça faisait quand même 15 ans qu'il avait réalisé des films. Et donc il y a eu ces courts-métrages à la BPI. Il est venu, là aussi je ne me rappelle pas vraiment. Et ensuite, les longs-métrages ont été programmés à l'Action République, enfin, les longs-métrages qui étaient disponibles à l'époque. Donc c'est vraiment la découverte de ce cinéma par un plus large public. Jusque-là, il était connu essentiellement des critiques qui fréquentaient les festivals. Ensuite, une date importante pour nous, c'est 1985, puisque à l'initiative de Vidéo Ciné Troc, Pierre-Olivier Bardet et du ministère de la Culture. À l'époque, c'était Marie-Pierre Muller qui travaillait à la direction du livre. Avec l'aide de la BPI, les films de Johan van der Kulken ont été édités. Alors, à l'époque, c'était des cassettes humatiques. Donc, il y a eu 13 cassettes éditées avec, je crois, une dizaine de films de Johan. Et ces films ont été diffusés dans les bibliothèques. Il y avait également un diffuseur de ces copies 16 mm pour le circuit non commercial. Donc, 85, ça a correspondu aussi à la publication par Vidéo Ciné-Troc sous la direction de Jean-Jacques Henry, qui avait un des découvreurs aussi de Johan en France. Donc, l'édition d'une petite plaquette que j'ai là, les films de Johan van der Kulken, qui a eu une diffusion dans les bibliothèques, peut-être un petit peu au-delà. C'était le premier livre en français sur son œuvre. Et de façon concomitante, un film avait été tourné avec lui en 1984, produit par Pierre-Olivier Bardet. C'est un film d'une demi-heure. Je me rappelle qu'il était tourné dans le métro aérien. Et on n'entendait pas très bien la voix de Johan, mais ce film a disparu. Je ne crois pas qu'il fasse partie du coffret édité par Arte récemment. Si quelqu'un pouvait le retrouver, ce serait pas mal. Voilà, les films meurent aussi, il faut dire. Donc, pour nous bibliothécaires, les films de Johan van der Kulken étaient relativement inclassables, parce qu'on a dit cinéma documentaire, bon, cinéma expérimental, ça j'aime pas non plus tellement, cinéma politique, ça certainement. Je pense que Alain Bergala avait même dit cinéma métaphysique. Je crois que c'est vous qui avez utilisé ce terme. C'est celui que je préfère. Expérimental, si on considère que chaque film, à chaque film, Johan expérimentait quelque chose de nouveau, ça certainement. Mais c'est un cinéma qui a un contenu politique manifeste. Donc, pour nous, ce qui était, je vous raconte une anecdote qui ne pourra peut-être pas rire, mais pour les bibliothécaires, la question du classement, c'est quand même important. Et donc, le premier catalogue qu'on a édité en 1992, c'était 1500 films pour les bibliothèques publiques. C'était un espèce de gros pavé, parce qu'on voulait vraiment montrer ce que nous a été important. Et dans ce catalogue, je ne savais pas où mettre les films de Johan, parce que je n'avais pas envie de les séparer. On en avait déjà, je pense, une quinzaine. Donc, on se disait, l'enfant aveugle classé dans les handicaps à la limite, bon, ce n'était pas génial. Mais alors, les autres... Où allait-on les mettre? Donc on a fait une chose un peu qui n'est pas très, très légale dans les bibliothèques. On a créé une sous-catégorie dans la section cinéma. Ça s'appelait les films de Johan van der Kulken. Donc voilà, je vous avoue ce péché de bibliothécaire. Et donc depuis 1992, on a continué évidemment à diffuser ces films, à les acheter régulièrement. Et encore une autre date, c'est 1998, où j'ai publié un numéro de la revue Images documentaires dont je m'occupe, sur Johan van der Kulken. Ça vaut la peine de le relire, il est en ligne sur le site de la revue, ce numéro. Et en particulier, il y a un article de Robin Dereux qui retrace de façon assez claire la réception des films de Johan van der Kulken en France et de la réception critique. En fait, il a été redécouvert à peu près tous les 5 ans, 10 ans, 15 ans. À chaque fois, on redécouvrait les œuvres de Johan. Bon, alors, pourquoi Face Value? Je dois dire que j'ai un peu hésité à un moment entre L'œil au-dessus du puits que j'avais revu et Face Value que j'avais jamais revu depuis sa sortie, comme je vous le disais. Et c'est Florence qui m'a dit « Face Value, c'est mon préféré ». Et elle a raison, moi aussi, c'est celui qui m'avait vraiment le plus ému à sa sortie. Je ne me rappelle plus où je l'ai vu, mais je me rappelle qu'à la sortie du film, j'ai rencontré... Enfin, il y avait Johan qui attendait avec sa femme, avec Noshka. Et je me rappelle qu'ils étaient dans une terrasse de café du soleil. Et je me suis approchée de Johan en disant... Enfin, j'étais enthousiaste, quoi, j'étais émue et tout. Et je lui ai dit, c'est formidable, parce que je viens de lire Lévinas, je viens de lire Humanisme de l'autre homme, et ton film, c'est vraiment une illustration de ce que j'avais lu, en fait, de ce que j'étais en train de découvrir et de lire. Il m'a regardé gentiment comme ça, mais bon, je pense qu'il n'avait pas lu Lévinas à l'époque. Enfin, je ne sais pas s'il l'a lu après non plus. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Une dernière chose avant de passer la parole à Alain Bergala, c'est au Centre Pompidou que j'ai revu Johan la dernière fois. Il avait une installation dans l'exposition du Centre Pompidou qui s'appelait Le Temps Vite. C'était en 2000. Je ne sais pas si j'avais déjà vu à ce moment-là le film, le dernier film qu'il a réalisé, bah, qu'on se prolongeait, mais je savais qu'il était malade. Et donc c'était une rencontre un peu gênée comme ça, quand on sait que quelqu'un est malade et qu'on n'a pas grand-chose à lui dire. Et donc je ne l'ai pas revu. Après, il est mort en janvier 2001. Et voilà, donc... Alors il avait dit à un moment, après la projection de Amsterdam Global Village, pour résister au temps, les films doivent savoir garder un secret. Je trouve que voilà, c'est une phrase qui me plaît et je pense que Fezaliou a peut-être gardé un secret, en tout cas vous allez le découvrir ce soir. Et c'est assez émouvant de revoir le visage de Johan et d'entendre sa voix dans le film. Vous verrez. Voilà. Merci.
Bien, bonsoir. Je suis très content que vous soyez nombreux parce que j'aurais été très très triste si on avait montré un film de Johan avec 15 personnes. Mais là, c'est tout à fait bien. Bon, et c'est très émouvant pour moi aussi parce que j'ai beaucoup accompagné Johan van der Keuken. Chaque fois qu'il faisait un film et que le film sortait à Paris, il m'amenait avec lui dans des salles et on dialoguait devant le public. Après, le public parlait. Donc, j'ai suivi vraiment directement à peu près tous ses films pendant ces 20 dernières années où il a fait des films. Quoi. Et le choix de Fezaliou me plaît beaucoup parce que s'il y en a parmi vous qui n'ont jamais vu de film de Johan van der Keuken, il y a tout dans ce film. C'est-à-dire, avec ce film, on comprend qu'est-ce que c'était cet homme, comment il travaillait et qu'est-ce que c'était sa pensée du cinéma, qui était une chose absolument unique. Hein. Il n'y a aucun cinéaste qui a eu sa façon à lui d'approcher le cinéma. Alors, je vais parler un tout petit peu de ce film. C'est un film itinéraire. Il en a fait trois, le film itinéraire. Il a fait en 81 vers le sud, où il fait Paris, la Drôme, les Alpes, Rome, la Calabre et le Caire. Et c'était un principe, c'est-à-dire il allait de ville en ville et il filmait des choses dans les villes où il allait. Et après, quand il revenait à sa table de montage, il organisait tout ça, sauf que dans Vers le Sud, c'est chronologique, c'est-à-dire on descend dans le Sud, parce que ça s'appelle Vers le Sud, avec lui, jusqu'au Caire. Celui qu'on va voir, Fezaliou, c'est pas ça du tout, c'est-à-dire il va à Londres, Marseille, Prague, Berlin et les Pays-Bas. Mais c'est pas du tout chronologique, c'est pas du tout un parcours géographique, c'est-à-dire par exemple on est à Marseille et puis on passe aux Pays-Bas puis on revient à Marseille, c'est-à-dire que l'organisation du film est très très différente des films qui sont proprement des films itinéraires. Alors ce film, donc il l'a tourné, il prenait le temps, Johan van der Keuken, de rester dans une ville, de filmer, de repérer. Je ne sais pas comment y repérer, parce que là, je vois ce qui se passe à Marseille, c'est quand même génial. Les gens qui trouvent comme ça, je ne sais pas quelle était sa méthode, si vous voulez, de choisir. Vous imaginez, vous arrivez à Marseille ou au Caire, pourquoi vous prenez une personne et pas une autre? Mais il croyait très fort à la puissance de la singularité. C'est un très, très grand cinéaste de la singularité, c'est-à-dire, après tout, l'idée pourrait être, finalement, toute personne sera la bonne. Si je la filme bien, enfin, si j'ai quelque chose qui communique avec lui. Alors, ce film, il a tourné donc des fragments et il s'interdisait de penser à la grande forme que le film aurait. Il ne voulait pas anticiper sur la forme finale du film, c'est-à-dire il attrapait des visages, hein, puisque essentiellement c'est des visages. Et par rapport à ça, il improvisait beaucoup. Alors, il y a une chose magnifique dans ce film, vous allez voir, c'est que chaque fois qu'il arrive sur un visage ou sur un groupe ou sur des gens, il filme à la pulsion et chaque fois c'est différent. C'est-à-dire c'est comme un peintre qu'on verrait, si vous voulez, dessiner d'un geste différent pour chaque personnage. Parfois vous allez voir c'est tremblé, parfois c'est très cadré, parfois il fait des trucs à la Van der Keuken, c'est-à-dire il prend le visage, il va au pied, retourne le visage. C'est-à-dire chaque portrait à son propre style. Mais ce n'est pas un style, c'est l'idée, voilà, comment j'ai envie de filmer cette personne. Et bon, du coup, c'est extraordinaire sur la multiplication des attaques qu'il fait sur les gens qu'il est en train de filmer. Donc après ça, il a monté chaque fragment. C'est cassé ? Oui, ça y est ? Oui. Sans savoir comment ces fragments allaient s'organiser. Donc 6 mois de montage des petits morceaux, et après plusieurs semaines pour organiser les morceaux, que ce soit pas trop didactique, enfin à la Van der Kuyken, c'est-à-dire l'idée c'est que le sens doit venir du spectateur. C'est à lui de avec les morceaux qu'il a vus, de se débrouiller et de construire, disons, quelque chose qui est le sens. Alors, ce qui est hyper impressionnant aujourd'hui, vous allez voir, c'est un film de 91. Donc, c'est un film qui a exactement 25 ans. Et c'est une époque essentielle pour comprendre aujourd'hui. Parce qu'en 91, quand il fait le film, en gros, il raconte un peu ce qu'il a attrapé dans ses films. La guerre du Golfe. Et là, il dit que la guerre du Golfe, pour lui, c'est un moment décisif. Il dit une grande rupture technologique, médiatique, mentale dans les rapports Nord-Sud devient visible. Donc, il est au moment où il pense que quelque chose de l'histoire devient visible. Il y a la chute du mur de Berlin qui est très proche. Et donc, il filme à Berlin, c'est magnifique, l'après-chute du mur, c'est-à-dire quand les gens de l'Est arrivent à l'Ouest, etc. Et il attrape ça, encore une fois, à chaud, directement au bon moment. Et il filme, c'est moins rigolo, mais les néo-fascismes. Et il y a des choses sur... vous verrez, il y a une séquence sur une manif de Le Pen qui est assez terrible. Enfin, voilà, donc ça veut dire que les lignes de fracture de l'année 91, elles travaillent encore aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a des choses incroyablement actuelles dans ce qu'on voit par rapport à ça. Ça, c'est le hasard. Enfin, c'est le fait qu'il fait ce film à ce moment-là. Alors, il va faire après un dernier film itinéraire qui est terrible sur... il sait qu'il va mourir. Et au lieu de... il dit, bon, tant pis, je ne me soigne pas. Je vais faire un tour du monde sans raison. Il fait un tour du monde pour filmer des endroits qu'il a aimés, qu'il a connus. Il va à Los Angeles, fait une petite enquête sur Vertigo. Enfin, c'est-à-dire, c'est un film absolument libre. Mais évidemment, il sait, il connaît la fin. La fin, c'est qu'il va mourir quand il aura fini de le monter. Alors, une chose très, très troublante par rapport à ça, c'est, vous allez voir, à la fin du film, moi, j'étais sidéré. À la fin du film, il y a quelqu'un qui meurt. Bon, enfin, on ne le voit pas mourir en direct, mais il y a quelqu'un qui meurt. Qui, lui, la mort est essentielle dans les films de Van der Kuyken, toujours. La mort et la métaphysique, du coup. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que vivre par rapport à une mort qui de toute façon, va arriver. Donc, à la fin, cet ami à lui meurt et il filme. Ça n'a rien à voir avec des grands bateaux noirs. Et à la fin de son dernier film, où là, il veut filmer sa propre mort, il fait les mêmes plans. Il fait des plans de très grands bateaux à contre-jour, comme ça, qui se croisent, etc. Comme si pour lui, l'image de sa mort, c'était ça. Donc moi, je ne m'attendais pas à ça. Enfin, j'ai revu le film là, avant-hier. Je ne m'attendais pas à trouver là quelque chose qui allait finir son œuvre complètement, hein, puisque ça sera les derniers plans, disons, qu'il va finir. Alors, juste, j'ai trop parlé. Qu'est-ce que c'est le qui est génial chez Van der Kuyken, c'est que quand il filme, c'est direct, c'est à l'intuition, c'est au sensible, mais après, il y a le recul, la méditation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui filme droit, et après, avec ce qu'il a filmé, médite. Et il médite l'histoire, il médite la vie. Donc c'est aussi à la fois du direct et de la méditation, à la fois du plus concret et à la fois de l'abstraction. Il n'a jamais fait un film qui serait purement du direct, comme ça, qui ne serait pas retravaillé par la pensée. C'est ça, c'est lui. Enfin, je veux dire, tous ces films relèvent de ce geste, disons, de cinéaste, qui fait que on ne sait pas trop si c'est un documentariste, si c'est un philosophe, si c'est un métaphysicien. Voilà, il y a toujours toutes ces tendances en même temps dans ces films. Bon, ben, bonne projection. S'il y en a qui veulent en parler après, on est là.
Voilà, ben merci Catherine pour ce choix, pour nous avoir découvrir ou redécouvrir ce beau film. Je ne sais pas si certains ont envie de poser des questions à Alain Bergala, qui a bien connu le cinéaste. et qui connaît très bien son œuvre et qui a peut-être des pistes à vous donner si vous avez quelques...
Pas forcément des questions. Hein. Vous pouvez aussi dire des choses sur le film. Pardon ? Je n'ai pas compris. Face value ? L'idée, c'est évidemment le visage, puisque le film est... Ceci dit, quand on voit le film, il est fait aussi sur les corps. Il y a les visages, mais il n'oblitère pas le corps. Et puis, c'est l'idée, qu'est-ce qu'on comprend avec un visage ? Qu'est-ce que ça vaut un visage ? Qu'est-ce qu'on en fait d'un visage ? C'est ça son interrogation de cinéaste, j'ai envie de dire. Vous avez vu que sur les visages, il fait beaucoup quelque chose qui est le contraire de ce qu'on fait dans les documentaires en général, c'est-à-dire qu'il filme le visage inerte. Il filme le visage qui ne parle pas et il met il enregistre à part ce que le personnage dit. Et on a donc, et c'est pas du tout pareil évidemment, si on voit un visage qui parle, on voit la parole. Si on voit un visage immobile et que la parole est derrière, on voit le visage. Je pense que ça, bon, l'idée, elle est très très présente dans le film. Mais évidemment, c'est pas non plus une pause, c'est-à-dire que quand il, par moment, il faut absolument que ce soit direct, au contraire. Et des fois, c'est très compliqué. Quand son ami est en train de mourir, là, on le voit, il parle et on l'entend, et on entend sa femme. C'est-à-dire là, il fait d'un seul coup un mixage très complexe entre ce que dit en direct l'homme et puis ce qu'il dit off, enfin, un enregistrement sonore seul. Là, il y a un vrai travail. Bon, je pense que vous avez perçu l'incroyable variété du filmage. Et j'adore quand il filme la reine, où d'un seul coup, il casse toute rigidité. D'un seul coup, il regarde ses pieds, sa tête, il part à côté, on dirait Walden. On dirait du Jonas Mekas, pratiquement, à ce moment-là. C'est-à-dire que... selon le sujet, hop, il change. Puis le garçon, là, très sage à sa fenêtre, de ce coup, il se met à faire de la pixilation avec sa tête. C'est-à-dire, on voit que c'est très réactif. Et qu'à ce moment-là, c'est pas théorique. À ce moment-là, je veux dire que c'est le montage qui fera du sens un peu avec ça, mais c'est pas le filmage. Le filmage, on sent que c'est impulsif. Il a envie de filmer comme ça ou pas comme ça. Et il y a une variété de filmer un visage, quelqu'un dans ce film, qui est assez inventive et incroyable. Je pense que pour des étudiants en cinéma qui se poseraient des questions sur comment je filme des visages, il y a de quoi faire. On pourrait voir toutes les façons dont lui s'attaque à ça. Bon, ce qui est quand même très beau dans le film, c'est, à le voir aujourd'hui, bon, d'abord, c'est quand même extraordinaire qu'il y a 25 ans, il y avait déjà tous les problèmes d'aujourd'hui. À peu près. On se dit finalement, ça n'a pas autant bougé que ça. Et surtout, ce qui est terrible, c'est les choses qui n'ont pas bougé du tout. C'est-à-dire sur la Palestine, voilà. Il y a des choses qui sont en l'état 25 ans après. Enfin, à peu près en l'état 25 ans après. Et où il est très très fort, Van der Kuyken. Parce qu'après tout, l'idée de partir dans quelques villes et d'attraper des gens et des visages, c'était pas gagné que ça produise une sorte d'état de l'Europe au moment où on fait ça. Ça pourrait être anecdotique, ça pourrait rester superficiel. Or, il attrape énormément de choses sur l'immigration, surtout sur le politique, sur tout. Mais c'est jamais du discours. Hop, c'est très sinueux. On relie soi-même un truc à quelque chose qui arrive après. On comprend un peu des choses sur la situation sociale des gens, mais c'est jamais un discours. Et même le montage, il y a des moments un peu où il y a un peu de sens forcé quand on passe des pauvres, quand on passe au truc du polo par exemple. Là, il y a un petit truc, un petit forçage du sens, mais en fait, ça fonctionne pas comme ça. C'est pas un film qui serait fait sur le forçage du sens à partir de matériaux qu'il aurait prélevés. Ça reste extrêmement musical. Quand on voit le film comme ça, on est porté comme par un morceau de musique, plus que par une thèse, voyez, ou quelque chose qui, voilà, du vouloir dire. Le vouloir dire n'est pas premier du tout. Ça dit sans qu'il y ait un vouloir dire qui soit asséné au montage, par exemple. Le montage est très, très beau, très, très sinueux. Et il dit que, il y avait, vous imaginez le montage de ça, il y avait tellement de possibilités qu'il aurait pu rester 6 ans à monter ça, puisque tout était possible à partir du moment où il avait ces petits blocs, il pouvait tout. Et il dit, je n'ai pas voulu me poser la question, il appelait ça la grande forme, c'est-à-dire une fois que les petits éléments sont assemblés, quelle est la grande forme à trouver? Et il dit, je voulais avoir aucune idée préconçue de la grande forme. La grande forme, elle est venue en travaillant au montage, après qu'il ait monté les petits morceaux, les uns, et déjà les petits morceaux individuels, ils sont montés très très différemment selon les sujets, selon ce qu'il a. Il n'y a pas un style. C'est mieux que s'il n'y avait qu'un seul style, enfin pour moi, parce que ça rend compte de quelque chose qui est les contradictions, la diversité, etc. Et en même temps, il y a des trucs à lui, notamment cette chose que Van Kahn a inventée, hein, c'est de cadrer quelque chose et puis hop, faire un léger décadrage, hop, revenir. Ça, c'est un truc à lui, c'est son geste comme ça dans la jungle plate, c'est magnifique parce qu'il est en train d'interviewer quelqu'un et puis d'un coup il le laisse tomber dans un seul plan, il va voir à côté, il revient. Ça, c'est un truc qu'il a inventé, enfin je pense c'est quand même lui qui a inventé ça. Et là il revient des fois à ça, mais pas systématiquement, voilà, c'est pas, il n'y a pas de systématique dans ce film. Bon, à vous, oui. C'est une caméra 16 mm. C'est lui qui filme, ah oui. Manière que quel... Non, non, il y a quelqu'un qui est crédité, c'est plein sur lui, quand il met les lunettes. Mais non, non, manière que Ken était un homme à la caméra. Je veux dire qu'il a toujours tout filmé, tout seul, enfin, pas au son, hein, évidemment. Enfin, il y avait quelqu'un avec le son, à la fin c'était sa femme, mais ah oui, Vanderkel n'aurait pas pu travailler avec, c'était son truc quoi, c'était un photographe, hein, je veux dire aussi, c'est-à-dire que pour lui s'il n'avait pas pu cadrer et filmer, et en plus on voit bien que sa façon de filmer, elle est très corporelle, c'est-à-dire elle est très dans l'instant, il attrape un truc, il fait un zoom, c'est-à-dire que personne n'aurait pu faire à l'intuition, ce que lui a envie de faire. C'est quand même un cinéaste extrêmement physique. Et on voit qu'avec sa caméra, D'ailleurs, c'est très beau quand il interviewe son grand-père. Son grand-père lui dit, je vois un truc qui dépasse, là, c'est la machine. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a... Oui. Oui. Non, il est toujours seul, et même dans des films comme les films sur les cuivres, là, j'oublie le titre, où il est allé filmer dans le monde entier les instruments en cuivre. Enfin, ça s'appelle, je ne sais plus comment. Et dans ce film-là, vous imaginez la galère, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse 40 plans sur un morceau de musique et qu'après il les monte. Évidemment, avec 6 caméras, ça aurait été facile. Donc, il faisait des petits bouts. Et après, travail de fou au montage, de recaler par rapport au son qui lui était entier, si vous voulez, ces morceaux-là. Il a toujours filmé à une seule caméra, parce que pour lui, ça n'a pas de sens qu'il y ait un autre regard que le sien. Enfin, on voit bien qu'en plus, c'est quelqu'un qui affirme toujours sa place par rapport à ce qu'il filme. Il est toujours au tac comme ça. Le geste, enfin, il affirme comment il se positionne par rapport à l'autre. Et il est rarement en retrait. Il y a un plan très beau, enfin, je trouve, sur le prêtre qui au truc de Le Pen, là, où le prêtre fait ça, et là, il ne bronche pas. C'est-à-dire, il le regarde, il cadre, le cadre ne bouge pas, il n'accompagne rien, et il laisse le prêtre s'énerver tout seul, là, comme ça. Après, quand il y a le plan de Le Pen, ça bouge beaucoup. Mais je ne sais pas si c'est lui ou si c'est les conditions, que c'était au zoom et qu'il y avait la foule, quoi. Je ne sais pas si c'est la volonté de brouiller le plan, enfin de dire, je ne sais pas ça. Oui, c'est ça, c'est qu'il est, c'est pas lui qui fait bouger la caméra, il est pris dans quelque chose qui fait que la caméra vibre. Oui, oui, à la fin de ce plan. Oui. Ça ressemble pas quand on fait exprès de bouger, ça ressemble comme si, effectivement, il y a des équilibres, peut-être qu'après, il s'est stabilisé, peut-être qu'après, les conditions ont changé, que le plan se stabilise spontanément, enfin, à la fin. C'est un plan un peu... Par rapport à ça, je me suis demandé si c'était exprès, ce n'est pas son genre. Parce que vous avez... il ne se moque jamais de personne. Enfin, il se moque un peu des gens quand les gens sont vraiment... Enfin, comme les... Justement, là, ceux qui sont dignes de Le Pen, quand même. Et même là, ce n'est pas tout à fait vrai. Les types qui boivent et tout, ils les regardent avec humanité. Enfin, ce n'est pas, quelqu'un qui dénonce Van der Kuyken. Il regarde. Voilà. Et puis, après, ben, on se débrouille avec ce qu'on voit et ce qu'on y voit, nous. Ce n'est pas quelqu'un qui a de... Surtout sur les visages, puisque sur le principe même du visage, c'est que c'est énigmatique, que c'est opaque, et qu'on en fait ce qu'on veut. Enfin, le spectateur en fait ce qu'on veut, surtout si le visage ne parle pas. Enfin, surtout s'il n'y a pas le son direct qui sort du visage. Voilà, donne un sens trop net, enfin, au visage. Oui. Non, parce que, en tant qu'homme, hein, c'était quelqu'un à qui on ne pouvait que faire confiance. C'était un homme très doux, très très calme. Et finalement, les relations avec les autres étaient. Il créait avec les autres une relation qui était lui, enfin, qui était douceur et attention incroyable. Quoi. C'est un homme qui était toujours en état d'extrême attention, respect. Des autres, évidemment, les gens qui filment le sentent. C'est le contraire de caméraman hystérique qui arrive et tout. Les gens voyaient bien qu'il n'était pas là pour leur prendre quelque chose. Quoi. Les gens... Oui, c'est un tournage qui a été très très long. Hein, même quand il part filmer des choses un peu loin, etc., la qualité de la relation est toujours la même. Avec les gens qu'il est en train de filmer, parce que les gens sentent bien qu'il n'est pas là pour les juger, pour voyez, les gens sentent que il y a une honnêteté du regard sur eux qui fait qu'ils se laissent aller. Enfin, même par exemple, j'aime beaucoup la scène au début de la contorsionniste qui dit des horreurs sur les femmes et en même temps, et puis qu'il y a ce rictus, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire des acrobaties pas possibles. Et elle garde un masque absolument souriant, impassible. Là, il y a des choses très complexes qui se jouent à ce moment-là sur elle, qui elle est, etc. Et sur la fierté de dire « je suis la plus jeune, mais c'est moi la chef ». Et elle se comporte comme une chef, enfin comme ça, mais sur l'énigme absolue de cette femme, de son visage, de son maquillage. C'est-à-dire là, il entre très fort dans son sujet. Quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça dit un visage ? Et là, le visage, c'est même plus un visage, c'est un masque. Puisqu'on voit qu'elle se prépare à être en scène et que rien de ses efforts ne doit être visible sur son visage. Donc, il attaque assez fort, enfin, sur ça, je trouve. Mais là, c'est pas tellement sur le discours. Voilà, il fait un truc très souvent dans le film, hein, ça, c'est évident, c'est que comme il commence par un gros plan, on ne comprend pas tout de suite quelle est la situation, enfin, qu'est-ce qui se passe autour. Et après, soit il va filmer d'autres gens, du coup, on commence à comprendre un peu quelle est la situation, soit il recule un peu. Mais souvent, quand on entre dans une scène, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Et même des fois, on ne sait pas non plus à la fin. Il y a des choses. L'histoire là de le couple qui s'embrasse avec la projection d'un film, je ne comprends pas ce que c'est. Oui ? Vous non plus. Il y a des choses qui restent totalement énigmatiques ou des choses très très courtes. La femme qui visiblement anime dans une maison des jeunes un truc, il y a 2 minutes et on ne sait pas. Il y a des choses qu'on... Et parfois, par contre, il prend le temps parce que ça aurait été quand même assez ennuyeux si je crois qu'il y a 60 sujets, avaient duré 2 minutes chacun. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il prend son temps, des moments où il va très vite, des moments où il... Et après, il joue avec ça au montage. Quoi. C'est un montage... incroyablement bon. Enfin, je l'ai vu deux fois là, puisque je l'ai revu pour vous en parler. Et là, ce soir, c'était bien. Puis en plus, moi, j'adore, enfin, vraiment le voir en 16 mm dans la vraie pellicule de l'époque. C'est quand même si ça casse un peu, ça s'est bien passé. Ça aurait été ennuyeux, ça avait cassé tout le temps, mais ça a cassé une fois, ça va. Et quand même, il y a un plaisir de voir que c'est la matière même qui était dans sa caméra, quoi, qu'on voit. C'est pas une retranscription comme ça. Il y a un vrai, y compris finalement les rayures, ça gêne pas. Enfin, il y a quelque chose de très physique qui va très bien avec son cinéma. Parce que si ça devenait lisse les visages, ça trahirait un peu le film, quoi. Bon, en même temps, c'est comme ça qu'on voit tout aujourd'hui. Hein. Mais c'est vrai que moi, je l'ai vu en DVD. C'est quand même beaucoup moins juste par rapport à lui. Enfin, par rapport au projet du film, quoi. Que là avec la pellicule. Il montait pas tout seul. Il montait, c'était lui le monteur, mais il montait pas toujours tout seul. Parfois sa femme l'aidait, parfois, enfin, il avait des monteurs qui l'aidaient aussi. Voilà. Non. Mais bon, c'était quand même lui le monteur. Enfin, et il prenait beaucoup de temps. Il avait une table de montage chez lui. Et il avait tout le temps qu'il voulait, si vous voulez, parce que c'était un film qui ne coûtait pas cher. Du coup, il n'y avait pas une attente de, si vous voulez, d'une institution, parce que là, c'était la 7. Bon, la 7, il lui laissait tout le temps qu'il voulait de finir ses films. Ce n'était pas un système comme ça, industriel. Et ce qui est bien chez Van der Kuyken, c'est que finalement, il n'a jamais eu de problème pour produire ses films. Il a toujours trouvé deux ou trois télés, parce que sa force, c'est qu'il était européen. C'est-à-dire qu'il était reconnu dans beaucoup de pays d'Europe, donc le producteur, qui était lui aussi, il savait qu'il pouvait prendre un peu d'argent en Italie, un peu d'argent où il arrivait, et comme il avait quand même une réputation d'auteur, c'était pas juste quelqu'un qui fait des reportages pour la télé, quoi. Du coup, il y avait du respect pour son travail, et du coup, les gens donnaient volontiers. Mais il était dans une économie relativement pauvre, mais ça coûtait rien. Je veux dire, il filmait lui, ça coûtait pas grand-chose, quoi, à faire. Ça prenait le temps, mais le temps, il l'avait. Enfin, il n'était pas, c'est pas quelqu'un qui était stressé par le temps. Ah oui, il y a beaucoup de rush, oui. Parce que quand on voit les trucs qui sont très montés, on imagine qu'il y a des heures, quoi. Ça a dû coûter cher, celui-là en pellicule, parce que ouais, qu'à l'école, à l'époque, il fallait quand même payer la pellicule, mais bon, il était. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu se plaindre qu'il n'arrivait pas à monter un film, ce qui aujourd'hui n'existe plus. C'est-à-dire, il avait trouvé sa structure, son économie, voilà, et elle était familiale. Donc, non, c'était. De toute façon, les films de Van der Kuyken, ils ne sortaient pas en salle. Hein. C'était des films faits pour les télévisions, les festivals. Il n'était pas du tout dans un registre de. Il y en a qui sont sortis à la fin, mais ce n'était pas son univers, si vous voulez. Il y a eu beaucoup, évidemment, de rétrospectives. Il y a eu beaucoup de. Comme ici, ou comme il y a plein d'endroits où il y a eu de rétrospectives. Ça sortait un peu à Paris, parce que quand même, Paris, c'était sa deuxième ville. Enfin, il avait à Paris tout un réseau d'amis qui fait qu'il y avait plein de gens qui montraient ses films. Je me souviens à l'époque, de, par exemple, des cinémas de Frédéric Mitterrand, là, je ne sais plus comment ça s'appelait, les films de Van der Kuyken sortaient là. Il y avait un 16, hein, comme ça, il fallait qu'il y ait des projecteurs 16, mais ça sortait quand même un peu, voilà. Mais il avait une sorte de reconnaissance, comme ça, de toute façon, de son travail. C'était plus quelqu'un qui. Sa valeur, c'était lui. Enfin, c'était pas la valeur commerciale. C'était un auteur. Pour le dire tout bêtement, c'était vraiment un auteur. Oui. Non. Il parlait bien anglais, évidemment. Il parlait français comme vous et moi. Donc, à Marseille, il n'y avait pas trop de soucis. Mais après, je ne sais pas. Je pense peut-être qu'il devait parler un peu allemand, parce que, étant donné son pays, voilà. Bon, mais il se débrouillait, je veux dire. Ou alors, il devait avoir des gens qui l'aidaient sur place, vous voyez, à partir de l'anglais, quoi. Il devait trouver des solutions bricolées.
Et sur le procédé d'enregistrement,
Oui, je pense. Oui, je pense que c'est pas qu'il aurait filmé des heures, qu'il aurait gardé le son et enlevé l'image. Je pense que là, c'est délibéré. C'est-à-dire, il filmait des choses. Parfois, il filmait en direct. Et après, il devait faire continuer la discussion au magnétophone. Parce que là, on voit bien que c'est le système est établi tout de suite. Le système est établi. Et ça vient. Bon, c'est intéressant par rapport, évidemment, à la modernité, par rapport à Deleuze, par rapport à Godard, puisque Deleuze dit un visage qui parle pas, c'est plus intéressant qu'un, enfin, c'est autre chose qu'un visage qui parle. Et Godard a fait beaucoup ça dans les années 60. Godard faisait arrêter le texte et il gardait le Bergman aussi. Il gardait le visage silencieux, enfin, qui ne parlait pas. Et c'est vrai que quand on passe dans un plan d'un visage qui parle, un visage qui parle plus, le rapport qu'on envisage n'est pas du tout le même. C'est un truc. Donc là, il est dans un mouvement, enfin, moderne, disons. Et là, il est très proche de. Parce que moi, il adorait parler de Godard avec moi, parce que Godard, c'était quand même pour lui le plus grand cinéaste existant et tout. Et des fois, je lui disais, mais finalement, il y a des choses que tu fais comme lui. Et il était tout content. Et un jour, je l'ai présenté à Godard. Et il était comme un petit garçon de 8 ans, tremblant, timide, d'aller saluer Godard, qui évidemment n'en a rien fait. Godard lui dit ah oui, bonjour. C'était au jeu de pommes, je me souviens. Mais pour lui, en tout cas, c'était pour penser le cinéma. Godard l'aidait beaucoup. Enfin, voir les films de Godard était pour lui une expérience très importante pour penser son propre cinéma. Alors que quand on voit ça, il n'y a rien de godardien. Enfin, je veux dire, c'est juste la pensée du cinéma. C'est pas, y a rien qui ressemble à du Godard là-dedans. À part ça, peut-être le visage qui ne parle pas, enfin, ou qui parle sans que les lèvres bougent. Oui, il parle du regard. Et il dit, qu'est-ce que se passe? C'est qu'il y a le cerveau, il y a l'œil, et puis il y a la caméra qui est entre les deux. Enfin, en gros, c'est ça. Et il dit, qu'est-ce que c'est que voir les autres? Qu'est-ce qu'on comprend? Il pose un peu la problématique du film. De façon, ça, il adorait ça, assez poétique. C'est-à-dire que quand il proférait des mots dans ses films, c'était toujours plutôt sur un registre poétique. Et il a écrit des très beaux textes sur ses propres films et sur le cinéma. C'est quelqu'un qui avait une qualité d'écriture, parce que forcément, c'était quelqu'un de très concentré, voyez, qui réfléchissait sans arrêt au cinéma. Et du coup, quand il écrivait, c'était assez bon. Il y a aussi, bon, vous avez vu, là, il y a aussi des trucs qu'on va retrouver dans toute l'œuvre de Van der Kuyken, c'est les handicapés. Là, il y a les enfants sont muets. Au début, il y a ce truc très beau sur le type qui chante. Et là, justement, c'est un cas où il y a le visage qui chante et on ne sait pas ce que c'est. On se dit c'est un amateur nul et tout. Et après, on comprend que c'est un endroit où il n'y a que des gens handicapés. Et d'un seul coup, ça change tout par rapport à l'impression initiale qu'on a eue du plan. Et après, ça devient très, très touchant. Quand le type parle qu'il est heureux, quand il fait la musique avec les autres. La musique est très... Alors, la musique, ça, c'est un très grand truc de Van der Kuyken, hein, puisqu'il était très ami avec un groupe de son pays, et il a fait énormément de musique, de ses films avec eux. Il a fait aussi un film sur la musique, où il est allé chercher les cuivres du monde entier, en Afrique, enfin partout. Donc c'était pour lui, la musique, c'était une chose essentielle dans son cinéma et dans sa tête. Enfin, c'est quelqu'un qui adorait la musique. Et une fois ici, je crois que c'est ici, il y avait une prochaine de ses films avec William Brocker en direct. L'orchestre, c'était là. Voilà. D'un seul coup, j'ai un flash en parlant de ça. Oui, il était... Voilà, c'était ça, avec le temps. Et il y avait une amitié très grande entre William Brocker et lui. C'était des trucs comme ça. C'était un homme d'amitié, hein, mais j'ai toujours admiré ça beaucoup chez lui. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'amis, mais aucun n'était traité... C'était pas des amis. C'est-à-dire qu'il avait que des amis singuliers et il avait des rapports, je suppose, totalement différents avec chacun. C'était quelque... Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas savoir comment il se comportait avec les autres amis. Il y a eu un truc terrible un soir, c'est qu'il avait Un soir, il a invité à Paris, dans un restaurant, tous ses amis parisiens. Et déjà, tout le monde pensait que être son meilleur ami, comme tout le monde pensait. Puis on arrive, il y avait 60 personnes qui étaient vraiment des amis comme nous. Enfin, je veux dire, les gens étaient... Et puis, c'était un soir terrifiant parce qu'il avait appris dans la journée qu'il allait mourir. Donc, c'était pour faire une fête avec ses amis et il venait de... La nouvelle venait de lui tomber sur ses analyses, c'est-à-dire qu'il lui restait un an à vivre. Voilà, et il a été, comme toujours, très classe, très digne, enfin, très, très gentil. Enfin. Ah ben oui, sur le... Oui. Tout à fait, parce que l'humanité, ce n'est pas une proclamation d'humanité, c'est qu'on la sent. On sent sur le regard qu'il porte sur les gens, son humanité, et du coup, il fait ressortir celle des autres. Ce n'est pas l'humanité bêlante qu'on trouve chez certains cinéastes, c'est... réel, immédiat et direct. Voilà, il y a un truc comme ça. Et c'est, moi, ça me trouble beaucoup, là, enfin, ce soir, quoi, aussi. C'est-à-dire, quand on voit deux heures de visage comme ça, on se dit que l'homme qui était avec eux est quand même une chose très, très belle, enfin. Très... Oui, tout à fait. La multiplication, tout à fait. Parce que les médias étaient quand même moins prédateurs, qu'il y avait beaucoup moins de caméras, et que la relation qu'ils ont avec eux, et finalement, on voit qu'ils sont tous assez contents d'être... Pas contents, c'est pas ça, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de volonté de dire quelque chose, quoi. Quand ils filment les gens, ils ne sont pas là. Ah, puisqu'on me filme, je vais dire quelque chose. Et quand ils le disent, c'est très doux. Comme le type de Marseille qui explique pourquoi il est devenu voyou, pourquoi après il est rentré dans le rang. C'est sans aucune hystérie, quoi. Il dit ça, c'est incroyablement beau, enfin, je trouve, quoi. Parce que c'est expliqué sans revendication de quoi que ce soit. Enfin, et c'est évidemment... très touchant, puisqu'on comprend voilà, qu'il y a des gens comme ça. Et que... Oui, ça c'est un travail de fou, de montage son, de coupe des sons, je veux dire, c'était quand même un homme de matériaux, c'est-à-dire un Américain, il avait tout ça au bout des doigts. Enfin, c'était pas quelqu'un qui, pour lui, le montage, c'était d'abord une activité très concrète. Et les coupes et tout ça, il les trouvait en les faisant. Il essayait d'éviter au maximum d'avoir des modèles, des schémas. C'est-à-dire qu'il avançait dans les films morceau par morceau. Voilà. Ce film-là, ça se sent très bien, enfin, je trouve. Et d'un seul coup, pour une séquence. Vous pouvez faire un mixage très très bizarre, notamment à la fin, là, il y a les bruits qui cognent, je ne comprends pas ce que c'est dans les plans de la foule, on ne sait pas ce que c'est, il y a des bruits métalliques, donc c'est des sons qu'il devait prendre, et après il travaillait ça vraiment comme un matériau, quoi. C'était un potier, enfin, il prenait des bouts et avec ça il faisait sa poterie, quoi. C'était... Bon, il y a quelqu'un qui aurait pu être, enfin, qui par moment a fait ça, c'est Denis Gerbrand. Denis Gerbrand, il y a des, enfin, j'adore le film où il a sa caméra, il arrive dans une ville du Nord, il se met là et il attend. C'est-à-dire, il attend et il se passe rien. Il y a des gens qui passent, qui disent qu'est-ce que c'est ce fou. Et puis il y a un type qui vient et qui lui dit « Tu veux venir chez moi ?» Et il y va. C'est-à-dire que là, il n'y a aucune... Il ne sait pas qui va venir le chercher, etc. Là, il y a quelque chose de un peu comme ça, de l'esprit de Van der Kolken, mais de Nygaard-Brand. Aujourd'hui, il a beaucoup de mal à faire des films. Je veux dire que tout ça, aujourd'hui, ça se paye très très cher. Quoi. C'est, alors que Nygaard-Brand, il a quand même fait pas mal de films, des films qui ont eu une reconnaissance comme ça. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là, ils galèrent. Hein. C'est difficile. Aujourd'hui, il y a deux cinéastes qui arrivent à faire des films à peu près sans trop de difficultés. C'est Depardon, mais bon, c'est son truc. Et puis, Nicolas Philibert, et encore. Alain Cavalier, lui, il fait tout seul, ça ne lui coûte rien, il bricole. Enfin, je veux dire, Alain Cavalier, il a trouvé une solution totalement individuelle. Ceci dit, dans ça, il y a des choses qui me font penser à Cavalier, moi. Parce que sur les plans, quand Cavalier filme ses proches sur les visages ou les femmes... les ouvrières, il y a quelque chose de ce rapport-là, quoi. Mais chez Cavalier, la relation, elle est, je sais pas comment dire, elle est un peu plus exhibée. Le fait qu'il est proche des femmes qui travaillent, par exemple, je trouve pas le mot. Elle a pas la simplicité qu'il y a là, quoi. Il y a un petit peu de pose chez Cavalier. C'est aussi lié à sa voix, enfin, c'est aussi lié à son commentaire. Ouais, mais c'est très proche, hein, je veux dire, c'est clair que c'est assez proche, ça. Oui. À la fin, c'est la mort de son ami photographe. Et c'est pour ça qu'il y a le plan du bateau, et après, tout de suite, il y a que ce film est dédié à son ami. Parce que quand il filme, il est au bout du rouleau, hein, le photographe. Là, je trouve la scène absolument sublime sur le filmage, parce qu'au lieu de cadrer comme ça bien le type qui va mourir, il fait un cadre très bizarre. Il monte sur les arbres, il soigne pas le. Il n'y a aucun pathos. Voilà. On a l'impression qu'on est dans le jardin et que sa femme s'occupe de lui, etc. Il y a aucun. Bon, il y a une scène. Alors, oui, la mort est présente tout le temps, hein, même si à la fin, il fait une naissance, mais quand même, c'est le film est très travaillé par la mort. Bon, il y a la mort de l'hindou, mais tout le temps, là, la mort est assez présente. Bon, évidemment, il y a les gens qui ont vécu des camps, c'est-à-dire le thème de la mort est permanent, pratiquement, dans le film. Alors, il y a une scène que je trouve absolument géniale, c'est la scène du couple très jeune qui se marie. C'est terrible. Parce qu'ils sont là, ils sont obligés par le social de poser un jeune marié, ils n'en ont aucune envie, ils sont mal à l'aise, c'est horrible, enfin, l'idée. Voilà. Là, on comprend ce que c'est l'obligation sociale. C'est-à-dire qu'ils sont obligés. Enfin, ils sont obligés. Ils se sont donné l'obligation de se marier et puis ils ne savent pas faire. Ils ont pas de, il y a aucune, il y a rien de spontané. On a l'impression qu'ils sont en prison, qu'ils sont coincés. Le choix de ce couple est absolument génial. Quoi. La fille, tous les deux, quoi, c'est absolument magnifique, hein, sur ce que ça dit sur un très jeune couple qui est purement dans l'obligation sociale, enfin, qui est purement. Il n'y a plus rien de spontané. Et en plus, le photographe les torture, leur dit bougez pas, tout ça, il ne faut pas faire un millimètre, on va te mettre, etc. Ils sont complètement coincés par le social, quoi. Mais ils sont très beaux, enfin, c'est comme un tableau hollandais, le plan du couple, quand ils sont tous les deux dans le cadre. Oui, c'est terrible, sur le oui solennel. Et en plus, c'est un discours. Il dit qu'il faut que tu fasses le bien pour la société. C'est pas juste le bien dans ton couple. Il y a une mission. Déjà, ils sont écrasés par la cérémonie. Et en plus, on leur met sur le dos le bien du pays. Donc, ils sont encore plus accablés, les pauvres. Bon. Enfin, Noucha était sa deuxième femme. Et justement, il a commencé à vivre avec elle. Il a travaillé tout le temps avec elle. Et on la voit dans Les vacances du cinéaste. C'est sa femme. Enfin, c'est un film autobiographique sur des vacances qui passent en France. Et il filme sa femme en tant qu'elle, enfin. Et les enfants et tout. Mais elle l'a... Tous les films, ils les ont fait ensemble, à un moment. Après, c'est la vieille division, mais là, ce n'était pas du tout idéologique. C'est-à-dire que lui faisait l'image et elle le sent comme de pardon. Voilà. Mais ce n'était pas du tout par pression idéologique. C'est-à-dire que lui, parce que lui, il filmait 20 ans avant de la rencontrer. Donc, voilà. Et elle c'est... Et peut-être aussi que... Parce que quand on dit toujours que pourquoi est-ce que dans les couples, c'est l'homme qui fait l'image et la femme fait le son, et on a l'impression que c'est un truc de pouvoir. Ce n'est pas toujours vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, je trouve, qui passe très bien sur le fait que l'homme fasse l'image et la femme le son, souvent. Voilà. Ce n'est pas que idéologique, ce que je veux dire. Ça peut l'être, mais ça n'est pas que ça. Oui.
Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit avant, j'ai l'impression qu'il y a une part assez forte de toute une imagerie de la peinture flamande. Alors peut-être que je surinterprète un peu, mais j'ai eu l'impression de voir beaucoup de rituels en fait qui se succèdent avec une espèce de manière de capter les visages dans un aplat qui est très proche de...
C'est sa culture, hein. C'est évident que c'est sa culture et que ça se voit dans ses photographies parfois. C'est-à-dire, bon, il est très... Quand même, il a une vraie culture de son pays, même s'il est européen. Il a quand même des choses qui lui reviennent. Bon, là, dans le cas du couple de jeunes mariés, c'est évident, mais vous avez raison. Il y a d'autres scènes aussi qui sont un peu dans sa tête. Et il y a aussi un peu la peinture, oui. La peinture du Nord, enfin. Et alors, sur les communautés, c'est intéressant parce qu'il y a les visages et puis il y a les communautés. Les communautés, elles sont très diverses. Et il fait des allers-retours entre des individus et puis le petit milieu qui est le leur, les hindous, les cérémonies, voilà, comme ça. Parce que le social est présent aussi dans son film sous cette forme-là. Et le politique est présent autrement. Enfin, le politique, il est présent dans le choix de certaines choses qu'il filme. Très bizarrement, la télé, sur la guerre du Golfe, d'un seul coup, il se met à filmer l'écran de la télévision, parce que là, il n'a pas de choses directes. Et après, il y a l'histoire au ministère. Alors là, je ne sais pas comment il a fait. Quand il est au ministère des Affaires étrangères et qu'il prend les coups de fil, qu'il dise est-ce que les gens de l'ambassade vont avoir des masques à gaz, et ils se laissent tous filmer. Bon, on se dit que c'est des pays plus transparents que les nôtres, mais ils se laissent filmer alors que c'est quand même des trucs en temps de crise, sur une situation de crise. Et il est là, lui, peinard, il filme ce que se disent les gens. Il ment aux gens qui appellent, qui disent non, qu'il n'y a rien, l'ambassadeur sera là demain matin, alors qu'on voit très bien que ce n'est pas vrai, enfin, on voit très bien que c'est du baratin. Enfin, ça pour rassurer les gens, et ça passe impeccable. Bon, on va dormir. Allez.